Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table un peu particulière du lundi, avec aujourd'hui un invité, jusqu'à 13h30, le prix Nobel de littérature 2019, Peter Handke. Réveillant une vieille controverse sur ses positions proserbes pendant les années 90, en octobre, le jury du Nobel a dit vouloir consacrer une œuvre influente qui a exploré avec ingéniosité linguistique la périphérie et la singularité de l'expérience humaine. Peter Handke, c'est vrai, c'est d'abord une langue très particulière et une parole qui se fait rare. Et c'est aussi une œuvre de plus de 80 livres, des romans comme La Fadoum Gauchère ou encore Mon année dans l'abbé de Personne, des essais sur la fatigue, sur la journée réussie, sur le lieu tranquille ou encore sur le fou de champignons et des scénarios dont celui des ailes du désir réalisé par l'ami Wim Wenders. C'est enfin du théâtre, dont cette nouvelle pièce, Les Innocents, Moi et l'Inconnu, au bord de la route départementale.
La grande table. Olivia Gesbert.
Bonjour Peter Handke.
Bonjour.
Les Innocents, Moi et l'Inconnu au bord de la route départementale. L'histoire se déroule sur 4 saisons, du printemps à l'hiver. Laissez venir, laissez souffler, laissez rêver, rêver la clarté. Au bord d'une départementale, il y a un moi qui prend la parole avant que n'arrivent les innocents et l'été qui chasse le printemps. L'inconnu, elle, surgit avec le retour des jours froids et la route continue.
Laissez venir, laissez souffler, laissez rêver, rêver la clarté, libérer en rêvant. Libérer qui ? Moi ? Nous ? Laissez confronter. Qui avec qui ? Qui contre qui ? Laissez d'abord venir la scène.
Dans ce livre, il y a un moi narrateur. Un moi narrateur qui se dédouble, comme souvent. Est-ce que c'est le double de l'écrivain, ce moi narrateur ?
Oh oui, oui, c'est le double entre moi dramatique et moi narrateur qui traverse la pièce. C'est pas un livre, c'est une vraie pièce de théâtre. Comme souvent chez moi, ça n'a pas l'air d'être... Mais c'est une vraie pièce. La trame essentielle, c'est la lutte entre le moi dramatique et le moi épique. Mais aussi, il y a d'autres drames. C'est un vrai drame, hein, soi-disant. Un drame pur.
Vous dites que ce n'est pas un livre, c'est une vraie pièce. Mais ça n'a pas l'air. Non, mais c'est intéressant, ouais. C'est parce que vous aimez bien aussi, et c'est le cas une fois encore, faire tomber les cloisons entre les genres narratifs, faire tomber les conventions, ce qu'on retrouve ici, dès l'ouverture du texte, de la pièce.
Oui, parce que je ne savais pas très bien moi-même où ça devait m'amener, cette expédition sur la départementale. J'ai senti quand même que c'était un problème profondément dramatique, mais avec le drame, ça convient aussi qu'il y a beaucoup de moments épiques. Ce n'est pas le théâtre épique que M. Bertolt Brecht a déclaré ou déclamé, mais c'est un autre théâtre épique que je sens dans moi, dans l'état des choses des êtres humains, qu'on peut voir chez Shakespeare parfois. Mais je ne sais pas.
Vous l'avez défini, il y a ce moi épique et ce moi dramatique.
Oui.
Et dans le livre, dans la pièce, dans ce drame, ils se présentent l'un et l'autre. Le moi épique dit... Mes héros, à moi, l'épique, ce sont les êtres seuls, les isolés, les uniques, les isolés uniques. Et le moi dramatique aussi tente d'exposer ses qualités. Mes gens, au contraire, ne sont pas des êtres seuls et isolés, mais unis tous ensemble. Et grâce au drame et à travers le jeu, tous peuvent s'unir comme à travers et grâce une autre forme. Est-ce que ces voix, Peter Handke, elles cohabitent en vous ?
Oui, vous l'avez dit, oui, c'est comme ça, oui. Oui. Ben, on ne va jamais trouver la solution. Je ne suis pas un idéologue. C'est dans moi, oui, les deux. Mais moi, ma manière d'être, où je me sens plus relativement chez moi, dans ma patrie ou dans ma matrie, c'est plutôt quand je suis épique, quand je pratique ce qui me convient de plus. C'est l'épic et mais en même temps, il y a aussi ces conflits éternels entre moi, moi-même, entre l'autre moi, et aussi entre moi et les autres, qui comptent aussi. Alors, je ne peux pas... C'est ça, un don aussi, un don peut-être pourri aussi, quand je suis pas purement un narrateur. Je suis pas purement, surtout pas purement un dramaturge. Parfois, je suis reconnaissant pour le rythme qu'il m'a donné dans la vie jusqu'au moment que je peux changer. Maintenant, c'est le temps, comme on dit dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y a le temps pour raconter, il y a un temps pour dramatiser. C'est pas écrit verbalement, mais j'ai fait ici la paraphrase de ce qui est dans le Qohelet, dans le livre de l'Ancien Testament. Il y a un temps d'aimer, il y a un temps d'haïr, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. D'abord, je me suis dit, c'est un défaut d'être tellement presque, pas schizophrénique, mais un peu, par moment, coupé en deux. Mais maintenant, j'accepte. C'est comme un cadeau jusqu'au moment. On ne sait jamais hein, la fin.
Vous la redoutez ?
Oui, oui. Mais tout est illusion. Hein. Tout est illusion, mais les illusions, heureusement, ça existe. C'est matériel aussi. Peut-être c'est le matériel le plus vaste, c'est l'illusion. C'est pas rien. C'est une autre instance. C'est une la troisième personne. La troisième personne.
On a l'impression que les idées vous tombent un peu dessus à un moment et que la main avec le stylo se met en marche. Là, pour cette pièce, l'idée première, l'envie, elle est venue d'où ?
Bon, un monsieur qui est soi-disant le roi de la départementale déchue, c'est son royaume, soi-disant, il est une espèce de royaliste, prétentieux, bien sûr. Et en même temps, il est sérieux, il veut jouer, dès qu'il, des autres arrivent, il est content qu'il a, soi-disant, son peuple arrive. Mais il se trompe, c'est pas son peuple. Et ça, les drames commencent. Les autres, soi-disant, innocents, sont pas du tout innocents, mais ils font beaucoup de mal, comme beaucoup de gens aujourd'hui font beaucoup de mal sans être coupables. C'est ça le plus grand sujet de la pièce. Ces gens d'aujourd'hui font tellement de mal, mais ils sont absolument pas coupables. Ils sont innocents.
Est-ce que l'innocence est un leurre pour vous ?
Non, ben je me suis dit, ça c'était on a plusieurs points de départ, mais il suffit pas un seul. Hein. Le tournant ça devient vraiment intéressant, pour moi, devenu intéressant, quand ils réalisent que ce qu'ils disent les autres, c'est pas du tout ça que ce qu'ils ressentent. La pièce, pour moi, comme drame, a commencé quand ils ramassent des papiers par terre, qu'ils ont jetés, les innocents, les gens, sur le papier, ils ont exprimé quelque chose qui est complètement différent à ce qu'ils ont présenté comme acteurs sur la départementale. Là, ils voient que je suis complètement perdu. Je suis dans l'église, je prie vers le Dieu, personne m'écoute. Tout d'un coup, il y a une autre chose. Et là, pour moi, la pièce a commencé. Et là, je me suis dit, je suis vraiment sur la route d'une profonde qu'on ne peut pas voir dans la nature, c'est-à-dire illuminée par la télévision, par les opinions, par la politique. Là, j'étais délivré moi-même des opinions et de tout ça.
Vous n'aimez pas les opinions ?
Bah, je suis plein d'opinions moi-même, mais j'essaie de les combattre. Quand j'écris, ça n'a aucun lieu, une opinion. Une opinion n'a pas le droit d'avoir lieu.
Elle n'a pas le droit de citer dans les livres ?
Non, d'être écrite. C'est que les journaux qu'on peut faire, bien sûr, mais pas moi. Moi, je suis écrivain.
Vous aimeriez qu'un jour les sensations gagnent cette guerre contre les opinions ?
En passant, on va gagner. Il n'y a rien à gagner. Mais il y a quelque chose à présenter, à découvrir, une espèce d'archéologie de l'âme qui est le métier de l'écrivain.
Est-ce que la littérature est aussi un champ de bataille pour vous ? chant. Est-ce que c'est d'abord un chant de paix? Vous l'apercevez comment, cet espace?
Ça, c'est bien, oui. Chant de bataille, c'est terrible comme mot. Mais c'est comme que Ibsen a dit que c'est pas mon auteur vraiment préféré, mais c'est quand même un grand dramaturge, Ibsen, Henrik Ibsen. Il a dit, un dramaturge, c'est lui qui commence à faire le tribunal contre soi-même. En allemand, il a dit Gerichtstag. J'ai essayé de préparer et réaliser les jugements contre moi-même. Je voulais toujours, dans mes pièces, mettre un méchant, comme Shakespeare a très bien fait. Et dans les pièces de l'Antiquité aussi, de Sophocle, il n'y a pas vraiment de méchant, c'est vrai. Peut-être, il y a quand même. Mais je n'ai jamais réussi. Là, dans cette pièce, il y avait quand même celui qui dirige les innocents. Je voulais vraiment qu'il soit un méchant comme Shakespeare, mais je n'ai pas du tout réussi. Et je peux vous dire, je suis assez content que j'ai pas réussi à créer un méchant. Parce que lui aussi, le chef de soi-disant innocent, il se dévoile comme quelqu'un qui est humain. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'est pas un tigre. Il veut être un tigre ou un lion ou un chacal ou je ne sais pas. Il n'est pas. C'est ça le drame aussi. Il y a plein de ramifications du drame. C'est un drame, c'est pas un livre.
Pour qui est-ce que vous écrivez, Peter Handke? On évoquait tout à l'heure juste la réception de votre œuvre. Est-ce qu'elle est importante pour vous? Je vous demandais, cette pièce, elle est mise en scène, elle va être montée à la Colline, à Paris, par Alain Françon. Je vous demandais si vous alliez aller la voir. Et vous me dites non. Quelque part, une fois que vous la donnez à un metteur en scène, c'est comme si elle ne vous appartenait plus. Vous acceptez d'en être dépossédé?
C'est le metteur en scène qui prend en main. J'avais toujours souhaité des metteurs en scène qui ne jouent pas à la fidélité, mais qui prennent en main et donnent aux autres. Mais ça, je ne pourrais pas faire moi-même.
Cette pièce, montée, comme on le disait, à la Colline en ce moment par Françon, il y a 5 ans, au moment de la création de Toujours la tempête, c'est lui qui l'avait mise en scène aussi à l'Odéon. Il disait de vous, ou il parlait de vous, en ces termes, en disant que vous êtes comme un gouverneur de son endroit, comme le conducteur de son spectacle.
Quand il dit qu'il est gouverneur de son endroit, je pense qu'il est aussi comme le conducteur qui nous mène quelque part. Et puis c'est ça, c'est la fonction du récit épique aussi, je veux dire, finalement on n'existe soi-même que si quelqu'un nous raconte quelque chose, ou si on est là pour écouter quelqu'un qui nous raconte. Donc, je sais pas, il a cette boutade, mais que je trouve très belle, quand il dit le secret du récit épique, c'est de répartir enthousiasme. Bien répartir l'enthousiasme. Je trouve que c'est ce qu'on a fait dans le spectacle, on a essayé de bien répartir l'enthousiasme.
Répartir l'enthousiasme. Je ne sais pas comment on y parvient, vous.
Contaminer.
Partager.
Contaminer, peut-être. Ouais. Contaminer, j'aime bien. Oui.
Vous aimez bien?
Oui, contaminer.
Mais
les latins avaient dit les proverbes ou les mots « nil admirari ». Rien admirer, ça c'est mon mot aussi. Je déteste être obligé d'admirer, mais contaminer ou enthousiasmer l'autre, oui. Avec mon enthousiasme qui est créé par la forme, par la structure, quand même, par le rythme. Non, c'est ça, c'est l'essentiel. On peut pas faire une pause, par exemple, dans l'écriture. Mais la pause, le silence ou quelque chose arrive. Mais parfois, on sent que ça marche pas. Parce que si on fait une pause, on ne peut pas faire la pause. Même cette pause qui arrive comme ça, ça fait partie du rythme, de la mélodie. Moi, quand même, on ne peut pas être des gens qui sont, des écrivains qui sont sans arrêt enthousiastes. Ça ne marche pas non plus. Pour un poème, ça peut marcher. Mais pour une pièce de théâtre, pour un long récit, il faut aussi des moments de arrêter l'enthousiasme et devenir chroniqueur. Ou reporter, ou même journaliste parfois. Même on peut utiliser ça aussi, comme jeu aussi. Alors c'est une structure compliquée, mais on ne peut pas déclarer comme méthode, ça n'existait pas. Aujourd'hui, ça c'est comme plus que jamais, ce mot de Pascal est valable comme il a écrit dans les pensées. Nous sommes embarqués. Mais ça, c'est bien pour notre temps. Il y a plein de choses qui ne sont pas bien pour notre temps, mais là, c'est valable.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Dans Les Beaux Jours d'Aaron Droez, vous mettez en scène ce dialogue entre l'homme et la femme, dialogue sur l'amour, sur le désir, sur le sexe, sur le souvenir aussi. On va écouter les mots de Wim Wenders, votre vieux camarade de route, qui a réalisé ce film sorti il y a 4 ans en France.
C'est pas si souvent que l'homme et la femme se parlent. C'est un dialogue qui n'a pas tellement lieu dans le cinéma depuis longtemps, je trouve. Quand on parle de choses essentielles, comme le sexe et la mémoire, le sexe pas d'une manière obscène ou frivole, mais ce que ça représente vraiment, ce que ça représente, la mémoire, la vieillesse, se souvenir de ses erreurs, dans le cas de la femme, se souvenir des hommes avec lesquels elle a fait l'amour, et parler de la nature aussi. Le film parle, il parle de la vie, pour ainsi dire, et il se parle avec une grande confiance l'un et l'autre. Il n'y a pas de secret entre eux.
C'est pas si souvent que l'homme et la femme se parlent, et c'est vrai aussi dans vos livres, c'est pas si souvent que vous les faites parler, dialoguer l'un et l'autre. Est-ce que la femme a le beau rôle dans cet échange, dans ce dialogue ?
Mais les deux sont magnifiques, je trouve. Ce que Wim a dit, la nature, c'est que j'ai commencé seulement à croire à la pièce quand l'homme, auquel la femme raconte ce qu'elle a vécu, ben, je ne sais pas s'il a vraiment couché, je ne sais pas les mots, je déteste, couché avec des hommes. Quand l'homme parle d'une autre chose, tout d'un coup, ce que la femme lui raconte, ça le rappelle quelque chose près dans la nature, en Espagne, où il s'est promené. Ça a commencé vraiment la pièce de théâtre. Il raconte des fruits du bois. Ça n'a rien à faire avec l'érotisme, avec la sexualité. Mais peut-être ça lui donne des images qu'il a vécues. Et là, ça commence le mystère de la pièce de Aaron Droez. Là, c'est ça qui fait la littérature aussi. Pas seulement une pièce de théâtre, mais c'est ça qui m'a mis en route aussi.
Il y a toujours cette idée de la mise en route aussi quand vous écrivez. Oui. On retrouve ça, c'est un de vos thèmes principaux, motifs, en tout cas réguliers dans vos livres, que ce soit vos pièces de théâtre, que ce soit vos romans, que ce soit vos essais, Peter Handke, cette idée de la marche, se déplacer, avancer. Mais quand vous partez, quand vous prenez ce chemin, quel est le sens de ce déplacement? Est-ce que c'est une fuite pour vous ou est-ce que vous trouvez quand vous entamez ces routes en général? Vous cherchez.
Et c'est vrai, c'est une fuite. Mais c'est une fuite. Une fois, je me suis dit, il faut inventer le héros de la fuite. C'est héroïque, la fuite. Hein. C'est dramatique, et héroïque, épique et tout. Le héroïsme de la fuite. Je me rappelle quand ma mère, son mari et ma petite sœur, on a quitté le Berlin-Est en 48, en juin 48, où j'avais 5 ans, on a pris la fuite, on a traversé, je ne sais pas, je ne veux pas compter les frontières. D'abord la frontière entre le RDA et la République.
DDR, RDA et je ne sais plus non plus en français. RFA, pardon.
Et ça c'était une vraie fuite et ça continuait, parce qu'après il y avait des 4 zones en Allemagne, des Américains, des Anglais, des Français et des Russes. Ah, des Russes, on a déjà quitté avec la RDA. Et après, on était entré en Autriche. C'était une fuite absolument héroïque de ce que ma mère et son mari ont improvisé, pas organisé. Il n'y avait rien à organiser. C'était une improvisation d'une heure à l'autre. Comment arriver dans les villages où là où ça commençait vraiment mon enfance, seulement un peu tard, mais qui s'est interrompue déjà cinq ans après, c'était fini. Mon enfance, c'était le village des parents de ma mère, en Carinthie, en Autriche, à la frontière yougoslave. Mais j'ai beaucoup de respect pour les gens qui fuient. Ça dépend. Hein. qui fuit quand il y a quelqu'un qui menace quelqu'un d'autre, et ils prennent la fuite dans le métro, j'ai un peu moins de respect pour ça.
On peut fuir aussi simplement dans sa tête.
Ça aussi, oui. Ouais.
C'est votre expression pire. De fuyard de la réalité pour parler de l'homme du jukebox. Écrire, c'est ça aussi?
Quelle réalité? C'est quoi la réalité?
Je ne sais pas quelle est votre cette réalité que vous avez envie de fuir.
Chacun, on n'est pas pareil. Chacun a une réalité qui a une nuance qui est contradictoire avec la réalité déclaré par les langages officiels. Non, je suis absolument pour la fuite de cette réalité, mais on fait toujours des détours vers une vraie réalité réelle. Ça existe. Jukebox, par exemple. Ça m'a mis en route, moi, encore en route. Mais je ne fais pas l'idéologie de la marche. C'est pas du tout ça, mais la route, oui, se mettre en route, c'est une autre. On peut marcher aussi. Mais j'aime bien le rythme de la marche dans ma prose, par exemple, dans l'épique. Ça, j'aime bien. Aussi des détours, des méandres, comme des fleuves.
C'est aussi pour ça que vous aimez chercher toujours dans les recoins de la langue, que ce soit dans la vôtre, quand vous cherchez vos mots, quand vous écrivez, ou dans celle des autres, quand vous traduisez.
Pas trop frimer avec les mots, mais il faut que ça passe, ça donne un petit bruissement à un mot, à l'endroit qu'il faut, dans les récits ou dans une pièce de théâtre. Ça, c'est magnifique, ça. C'est un événement. Oui, c'est vrai.
Mais il y a des mots qui sonnent bien un jour et qui sonnent mal le lendemain. Et vous,
vrai,
vous réécrivez souvent, du coup?
Non.
Vous revenez sur vos textes?
On sent tout de suite qu'un mot a sa place. Et parfois, on se réveille la nuit, on sent que ce mot il n'est pas à sa place. Je suis comme Flaubert, hein. Excusez-moi. Mais, sauf que je ne hurle pas les mots dans la nuit, je ne réveille pas mes voisins.
Il y a longtemps, tu m'as raconté un des événements qui t'ont marqué le plus. Un dimanche matin, tu passais en voiture, oui, toi, en voiture, sur une route semblable à la nôtre, ici, devant un homme qui marchait. Un homme en costume noir et chemise blanche. Et cet homme marchait. Son pantalon a bougé, volté. Et quand tu es revenu toujours en voiture, le dimanche, à la tombée de la nuit, l'homme continuait à marcher au bord de la route, les fonds de son pantalon toujours voltant et flottant. Et tu m'as dit que cet homme était devenu ton idéal. Mais tu n'es pas devenu cet homme, voisin. Tu n'es pas lui. Tu ne seras jamais lui. Cet homme, jadis en marchant seul sous le ciel, n'était en même temps pas du tout seul. Il était en harmonie. En harmonie avec qui ou quoi? En harmonie avec. Et ça lui a suffi. Mais toi, tu marches absolument seul sous le ciel.
Vous écrivez quand, d'ailleurs, Peter Hanke? À quel moment de la journée?
Ça a changé dans ma vie. Quand j'étais jeune, j'ai commencé très tôt, plutôt tôt. Parce que j'ai lu quand les écrivains, comme William Faulkner, ils ont écrit la nuit, le matin. J'ai commencé très tôt, 8 heures du matin, et je pouvais écrire assez. J'avais une endurance. Mais maintenant, je suis un peu comme un enfant brûlé avec l'écriture. J'ai presque peur, pas peur. C'est une espèce de distance. J'attends parfois jusqu'à l'après-midi pour me mettre à la table. Parce qu'il y a un moment où il faut quand même se mettre à la table. Mais j'ai différé avec les décennies. Je suis devenu écrivain. On n'est pas né écrivain. C'est devenu mon métier. Au début, je me suis dit ça, c'est complètement idiot comme métier. Maintenant, c'est mon métier et personne ne va m'ébranler là.
Est-ce que c'est toutes ces plumes qu'on a autour de nous?
Oui, ça vient de la campagne, de la Picardie.
Ça, c'est vous qui les ramassez?
Des bustes, Oui, ça tombe. Je suis fanatique j'étais fanatique de trouver des plumes, des rapaces. Parce que les plumes des rapaces sont beaucoup plus doux que les plumes des oiseaux qui ne sont pas des rapaces. C'est symbolique, si vous comprenez. Les rapaces ont des plumes assez douillettes, comment dire. Ce sont des faucons pèlerins. Quand ils quittent le bois, ils perdent les plumes. C'est ma théorie. Hein. C'est physique naturelle. J'espère avoir un prix Nobel pour ça aussi. Non, là, excusez-moi.
Vous en vouliez pas au début et maintenant vous en voulez un par an, c'est ça hein?
Pour la paix aussi. Non, ils perdent, là, c'est un phénomène, ils perdent souvent les plumes quand ils se mettent en route pour tuer.
Bon, alors, il y a quelques années, vous disiez, Peter Hanke, non au prix Nobel de littérature, parce que
non,
ça va canoniser l'écrivain, c'est des récompenses c'est vrai, un peu idiotes. Bon, aujourd'hui, vous l'avez, ce prix Nobel de littérature.
Ah, je voulais pas parler.
Mais moi, j'ai une petite question là-dessus. Vous avez dit ce mot peur, c'est quand même assez étonnant. De quoi on peut avoir peur encore quand on écrit depuis tant d'années, quand on a écrit plus de 80 livres, toujours confondus, qu'on a un prix Nobel de littérature, qu'on a 77 ans et qu'on s'appelle Peter Hanke? Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous n'allez pas plus facilement
peur.
À la table?
C'est pas normal d'écrire. Pour beaucoup de magnifiques écrivains d'aujourd'hui, c'est normal d'écrire. Pour moi, c'est pas normal.
C'est pas normal ou c'est dur?
Non, c'est pas dur du tout. Quand j'écris, j'écris. Hein? Personne va me déranger. Non, mais c'est, je sais pas. J'ai le sentiment que c'est un métier qui n'est pas permis, parfois. Mais j'aime bien me sentir une espèce de oh-la-loi. Mais dès que je suis assez content. Personne ne va me prendre cette position d'être un oh-la-loi. Là, je suis, c'est mon pays où je suis.